chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes. C'est dans la presse. Au Sénégal, la loi portant criminalisation du viol et de la pédophilie a été adoptée en plénière à l'Assemblée nationale le 30 décembre 2019 à l'unanimité et par acclamation debout. Les peines criminelles peuvent aller de 10 à 20 ans et jusqu'à la perpétuité s'il y a des circonstances aggravantes, a détaillé le ministre de la Justice Malick Sall. Cette loi répond à un besoin urgent d'agir contre ces violences dont le taux est élevé dans le pays, rapporte notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Dans les transports en commun, dans les foyers et dans les espaces publics, les femmes subissent toutes sortes de violences. Généralement, elles gardent le silence pour éviter le regard de la société. Certaines se tournent quand même vers des structures spécialisées qui portent anonymement leur voix et leur combat. Na Maïmoune Djité, membre de l'Observatoire des relations de genre au Sénégal.
Tu sors, tu dis à un de tes parents, j'ai été tabassée par mon mari, il te dit, Daloul Ngamoun, vas-y, tu vas gérer ton ménage, etc. Alors qu'ils ne savent pas ce que toi tu endures dans cette vie de couple. Je pense que c'est ça qui pousse beaucoup de femmes à avoir peur de s'exprimer, de dire ce qu'elles ont. Et que la société également n'a pas donné la place qu'il faut à la femme.
C'est donc le modèle de la société sénégalaise qui explique en partie cette violence subie par les femmes, comme l'indique le professeur Djibi Diakhaté, sociologue.
En fait, nous sommes dans une société où on a mis essentiellement l'accent sur le patriarcat. Le patriarcat, c'est une communauté dans laquelle les hommes ont plus de privilèges que les femmes. Si vous regardez bien, le patriarcat est essentiellement renforcé par l'acceptation d'un certain nombre de dispositions qui renvoient au culte. Nous avons par exemple la religion musulmane, la religion chrétienne et un certain nombre de traditions animistes et païennes qui mettent l'accent sur l'idée que l'homme doit prendre le devant par rapport à la femme. Maintenant, lorsque ces choses sont intériorisées, les gens ont tendance à développer des attitudes et des comportements qui sont de nature à montrer des fois de la façon la plus brutale qui soit l'autorité de l'homme sur la femme.
Les femmes sont ainsi victimes de beaucoup d'abus, comme le constate Na Maïmoune Djité de l'Observatoire des relations de genre au Sénégal.
Des fois même dans la circulation, dans les bus tata, etc., tu vois des femmes qui sont côtoyées par des hommes, qui font des attouchements, etc. On le vit tous les jours. En pleine journée, tu vois des hommes qui violent des femmes. Donc, c'est des choses qui continuent à exister dans notre société. Et je pense qu'il est temps maintenant d'arrêter.
Pour que ces violences cessent, il faut que les femmes puissent faire face. Et cela passe nécessairement par une émancipation, d'après Djibi Diakhaté, professeur de sociologie.
La femme a droit à des droits et ses droits doivent être respectés. Ses droits sont inaliénables, ils sont intangibles, on doit respecter le droit de la femme. Donc il faut un travail de sensibilisation à l'endroit des hommes, mais aussi un travail de déconstruction et de sensibilisation à l'endroit des femmes. Il faut voir que beaucoup de femmes ont tendance à accepter leur sort, à se dire qu'il en est ainsi et qu'on ne peut pas changer l'ordre des choses. Alors si on tombe dans cette sorte de fatalité, tout se passe comme si le sort est déjà jeté et qu'on ne peut absolument rien faire pour changer la tendance. Donc il y a un travail de déconstruction au niveau mental, amener certaines femmes à effectuer ce que l'on peut appeler une insurrection mentale.
Les associations, mouvements et structures spécialisées dans l'appui aux femmes vulnérables font souvent des actes pour dénoncer les abus basés sur le genre. Sur la même lancée, le gouvernement du Sénégal compte sur le durcissement des sanctions pour faire baisser les violences faites aux femmes. Le viol et la pédophilie, autrefois considérés comme des délits avec des peines de 3 ans d'emprisonnement, seront considérés comme des crimes avec de lourdes peines pouvant aller jusqu'à la perpétuité. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
Les violences contre les femmes persistent également en Côte d'Ivoire. Les organisations de défense des droits humains et les structures d'accompagnement des victimes estiment que l'ampleur du phénomène est de nature à susciter des inquiétudes et recommandent d'intensifier la lutte contre ce fléau. Siriki Barrou a rencontré des victimes et responsables d'organisations féministes.
Parler ou dénoncer les auteurs est un exercice encore très difficile pour les femmes qui subissent des violences. Rokia Ouattara en a connu dans son couple. Aujourd'hui, elle s'est engagée dans la lutte. Et son combat c'est de convaincre les femmes victimes à dénoncer les auteurs.
Nos sœurs ont peur de faire les témoignages. Parce qu'il y a cette peur qui est là. Il faut qu'on puisse amener ces femmes victimes à poser plainte.
Ami Traoré est écrivain et activiste féminine. Victime d'excision, elle a décidé de faire de sa plume son arme de combat.
J'ai décidé de créer beaucoup de projets autour du livre comme moyen de sensibilisation. Et à cet effet, j'ai publié une œuvre autobiographique, Le couteau brûlant. Ça nous a vraiment permis de sillonner des lycées et collèges. Parce que moi, je me dis que dans toute cette lutte-là, c'est plus une question de femmes, c'est une question de société qui concerne tout le monde.
En première ligne de la lutte contre les violences basées sur le genre, plusieurs ONG. OIS Afrique est l'une d'entre elles. Cette organisation non gouvernementale aide à la prévention et tente de rétablir les femmes victimes dans leurs droits. Norbert Conan, coordonnateur de cette ONG, pense que les premiers résultats de la lutte sont encourageants.
Il y a peut-être 10 années de cela, c'était difficile vraiment à une personne d'aller au niveau, par exemple, de l'hôpital, dire que j'ai été victime de violence sexuelle ou bien au niveau de la police. Mais avec les sensibilisations, la prévention, la mise en place des comités de protection dans les quartiers, de nos jours, ces femmes-là, quand elles ont été victimes de violence sexuelle, vont directement dans les centres de santé se faire consulter.
Aider les femmes à sortir de la précarité, c'est la lutte engagée par Anne-Marie Yao, présidente de l'ONG Femmes Debout pour le Progrès et la Paix en Côte d'Ivoire. Et pour parvenir à cette ambition, elle arrive à fédérer les femmes autour d'elle et prône l'entraide.
On a commencé à faire des petites tontines entre nous. On a commencé avec 500, on était 25 femmes, mais les plus vulnérables. Je leur ai inculqué comment il ne faut pas confondre les bénéfices et le prix d'achat. Aujourd'hui, toutes ces femmes-là, elles sont installées.
L'État a doté une vingtaine de postes de police, de bureaux du genre, afin de faciliter l'accès des victimes aux différentes voies de recours. Siri Kibaro, Boaké, VOA Afrique.
De 2,5 milliards de femmes et de filles dans le monde sont pénalisées par des lois discriminatoires et l'absence de protection juridique. En réaction à cette situation, ONU Femmes, l'Union africaine et d'autres organisations de grande envergure ont publié conjointement le document « Égalité devant la loi pour les femmes et les filles d'ici à 2030 », une stratégie multipartite en faveur d'une action accélérée. La stratégie vise à accélérer entre 2019 et 2023 dans 100 pays l'abrogation des lois discriminatoires dans 6 domaines thématiques, notamment les réformes, l'autonomisation des femmes, l'âge minimum du mariage, les droits sur la nationalité, les lois sur le viol et celles relatives à la famille et au statut personnel.
De femmes.
Selon un sondage hollywoodien rendu public le 27 décembre dernier, les 4 films les plus attendus de l'année 2020 ont été dirigés par des femmes et ce sont tous des longs métrages de super-héroïnes. Wonder Woman 1984 de Patty Jenkins a été sélectionnée comme étant le long métrage le plus attendu par 2000 cinéphiles sondés par le site Fandango. Le film Marvel Black Widow avec Scarlett Johansson est dirigé par Kate Shortland. Autre film Marvel sur la liste, Les Éternels de Chloé Zhao, qui présente des personnages incarnés par plusieurs stars, dont Angelina Jolie et Salma Hayek. Le quatrième, un Walt Disney, et Mulan de Nikki Caro. Un autre film de super-héros dirigé par une femme, Birds of Prey, est dans le top 7 des films les plus attendus. Dirigé par Cathy Yan, il voit Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn. Au Bénin, les associations de plaidoyer pour l'accès à la santé militent pour que l'accouchement humanisé entre dans les habitudes du personnel soignant. De nombreuses femmes enceintes ainsi que leurs proches se plaignent continuellement de l'accueil dans les hôpitaux publics et de mauvais traitements. Un reportage de Ginette Fleuradandé à Cotonou.
Le taux de mortalité maternelle au Bénin est resté pratiquement le même entre 2006 et 2018. Il y avait 397 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2006 et 391 décès pour le même nombre de naissances vivantes en 2018, selon un rapport sur la démographie et la santé au Bénin. C'est que les conditions dans les hôpitaux n'ont pas vraiment évolué. Certaines femmes ayant déjà fait l'expérience dans les hôpitaux publics en parlent.
Les sages-femmes ne sont pas trop accueillantes. Elles sont un peu énervée, c'est pour crier sur nous. Et des fois, même on a peur de venir à l'hôpital.
La sage-femme qui garde pendant 24 heures est obligée de continuer tant qu'il n'y a pas une remplaçante. Elle est épuisée, elle est fatiguée.
L'accouchement par voix basse avec les cris des sages-femmes et tout, dégagez monsieur, c'est ça. Ce n'est pas de l'accouchement humanisé.
Violence verbale et sociale à l'encontre des femmes enceintes, éloignement de la famille, qu'on interdit d'accès à la salle d'accouchement. Les cuisses de la femme écartées de force rançonnent. Vente illicite de médicaments, des ordonnances exorbitantes. Ce sont des pratiques courantes contre lesquelles l'accouchement humanisé voudrait lutter par des sensibilisations, des formations, des émissions radio, des jeux de rôle. Annick Nonouou, sage-femme juriste, activiste des droits humains en milieu sanitaire, pense que pour la crédibilité du système sanitaire, il est important de promouvoir ce type d'accouchement et pour cause.
Il s'agit d'un accouchement fondé sur le respect des droits humains. Quand on parle de respect des droits humains, mais en salle de naissance, c'est le respect des droits et libertés individuelles de la parturiente, c'est-à-dire de la femme qui en travaille. La première liberté, c'est l'accès à la personne de son choix durant tout le travail d'accouchement et pendant même l'accouchement et après l'accouchement.
Ce premier point de l'accouchement humanisé semble être une équation difficile à résoudre dans un hôpital public où plusieurs femmes enceintes se retrouvent nues dans une même salle. Dans le privé, cela relève d'une forte négociation et d'une faveur accordée à un homme qui attend d'accueillir son premier enfant. Sinon, le principe est formellement interdit. Les sages-femmes montrées du doigt se défendent. Elles disent accomplir leur devoir en toute humanité dans le respect des vies qui leur sont confiées.
Quand ça tourne mal, automatiquement, la sage-femme qui a mal fait le travail. Même les gynécologues aussi disent que c'est tout le monde. On juge la sage-femme qu'elle est mauvaise, mais quand ça va, il n'y a pas de problème.
Quand tu es sage-femme, tu dois donner la joie aux autres. Tu oublies ta famille, tu oublies tout le monde, le mari. Parce que c'est d'ailleurs qu'on a eu tellement de problèmes dans nos foyers. Et puis on est encore mal vu par la population. Et au finish, qu'est-ce qu'on ramasse comme bénéfice? C'est le mal de dos. Et combien on gagne comme salaire? Un salaire qui est misérable.
Accouchement humanisé ou pas, les problèmes resteront les mêmes si les femmes enceintes ne font pas un effort pour suivre religieusement les prescriptions médicales ou si l'État ne fait pas un effort dans l'équipement des hôpitaux publics, pense pour sa part Dr Christiane Aguemont, gynécologue obstétricienne au CNHU de Cotonou.
Je ne pense pas que le problème soit lié au personnel soignant. Il faut que la population essaie de faire la part des choses. Quand la malade arrive à l'hôpital, vous savez que dans nos hôpitaux, on n'est pas suffisamment équipé. La plupart des décès que nous recevons, ce sont les malades qui viennent des centres périphériques qu'on doit maintenant référer dans des centres de niveau 2 ou de niveau 3.
Avant que l'accouchement humanisé ne soit vraiment une réalité au Bénin, il y a encore tant à améliorer. La supervision formative des pères, la transmission d'une sage-femme expérimentée à une jeune sage-femme, la vulgarisation et la sensibilisation des droits des patientes, la formation continue de toutes les sages-femmes en activité. De Cotonou, je ne peux plus attendre pour VOA Afrique.
Si je ne pouvais.
Au Tchad, les enfants de l'orphelinat Dieu béni en périphérie de N'Djamena ont célébré le réveillon de Noël 2019, couplé avec l'évangélisation des jeunes riverains. Pour l'occasion, André Kodmadjingar s'est rendu dans ce centre qui abrite des enfants abandonnés et orphelins.
Oui. tous debout, la main droite sur le cœur et sous l'admiration de quelques parents invités, ces enfants désœuvrés dont l'âge varie entre 1 et 16 ans entendent l'hymne de la Fondation Dieu béni. Ils ont prouvé avec conviction que la vie est possible avec le Dieu créateur. Quoi qu'il en soit, ces pensionnaires invitent les autres enfants à respecter leurs parents biologiques à travers des récits bibliques et des sketchs.
Et du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur.
Aimons-nous les uns les autres.
Je garde ta parole, je prie chaque jour, j'obéis à mes parents, je dis toujours la vérité.
La fondatrice du centre orphelinat Dieu béni Nadibaye Sephora, qui a récupéré 70 enfants abandonnés et orphelins de la rue, dont 30 filles, explique le bien fondé de cette célébration et rêve de faire de ses enfants les vrais citoyens.
La fête de Noël, c'est la commémoration de l'enfant Jésus. Donc même si on n'a pas grand-chose à leur donner, c'est de leur permettre de s'épanouir. Nous voulons que ces enfants deviennent des grands cadres de demain. La rue n'a pas enfanté, donc on ne veut pas que ces enfants repassent dans la rue. Le peu que je peux offrir comme maman à ses enfants, je commence. Ils sont 70. S'il y a des gens qui nous viennent en aide, on peut faire plus parce qu'il y a beaucoup d'enfants dans la rue qui attendent une main qu'on doit leur tendre.
Au micro de VOA Afrique, quelques enfants désœuvrés qui trouvent refuge dans ce centre affirment avoir eu l'amour qu'il fallait.
Je suis restée sous la rue et on m'a conduit ici et on m'a donné l'amour. J'ai mangé, j'ai bu, j'ai dansé, j'ai récité.
Pour le pasteur Majtolm Justin, qui a la gestion spirituelle de ses enfants, c'est la méchanceté de l'homme qui pousse ses innocents dans la rue.
Combien d'enfants innocents sous, abandonnés à eux-mêmes à cause de notre irresponsabilité? Parents, quel que soit le degré de ta misère, ne rejette pas l'enfant.
Une organisation internationale CNPC choisit ce réveillon pour mettre de la joie au cœur de ses pensionnaires en leur offrant des dons composés de vivres et de non-vivres. Un geste qui leur donne davantage de sourires et encourage les responsables de la Fondation Dieu béni. André Code Magingar Ndjamena pour VO Afrique.
Rendons-nous à présent à Boaké en Côte d'Ivoire, notamment au COM, le centre d'observation des mineurs, ou plus précisément le centre de détention pour enfants. Aïcha Diarra nous fait revivre un moment de joie autour de l'arbre de Noël avec les jeunes pensionnaires.
Ils sont âgés de 13 à 17 ans. La plupart ont commis des infractions assez lourdes pour être ici. Malgré cela, la société ne les a pas abandonnés durant cette fête de Noël. La chorale Immaculée Concession de l'Église catholique, Saint Vincent de Paul des France 3 de Boaké, leur a offert un arbre de Noël. En reconnaissance, les enfants ont remercié leurs bienfaiteurs pour leur présence auprès d'eux. Ce jour sera l'une des journées qui marquera l'année de ces enfants détenus. Moussa Ouattara en fait partie.
Nous, ça nous plaît en tout cas de voir des gens auprès de nous. C'est-à-dire qu'on se sent toujours dehors, quoi. Nous tenons à leur dire merci encore. C'est pas tout le monde qui a le courage de venir voir des prisonniers.
Même si c'est un moment de joie, il reste sensible aux cœurs les plus sensibles. Estelle Niomke fait partie des initiatrices de cette arbre de Noël.
Je suis vraiment émue, c'est la première fois que je vis une situation comme ça. Les enfants m'ont véritablement touché.
Malgré tout, beaucoup de mots d'espoir. Vanya Corinne est la responsable de la chorale Immaculée.
Fais en sorte que ces enfants-là soient de bonnes graines. Et quand ils vont retourner dans la société, que ces enfants-là impactent leur environnement, que ces enfants-là deviennent pour papa demain des ministres, des présidents. C'est l'objectif que nous avons besoin à travers cette action.
Une cérémonie qui a pris fin avec le don des cadeaux de Noël aux pensionnaires. L'après-midi de cette journée a été marqué par la coupe du procureur de la République près du tribunal de première instance Bramakouné, ou affectueusement appelé Papa Roméo.
C'est la deuxième fois que nous organisons ce tournoi. Et je suis sûr que ceux-là qui vont partir ou bien qui vont être libérés, ils ne vont pas revenir. Parce que ceux qui vont revenir là, non, ce ne serait pas bon. Donc vraiment, je vous félicite. En réalité, tout le monde a gagné. Mais c'était notre manière à nous de venir faire la fête de Noël avec vous. Et on continuera de vous assister.
En retour, les pensionnaires de ce centre ont présenté leurs excuses à Papa Roméo, au juge des enfants, à la directrice du centre et à la société tout entière pour leurs erreurs.
Cher papa Roméo, aide-nous à demander pardon à le juge aussi. Même s'il n'est pas là, qu'il est ici, il attend ma voix. Le juge, je vous demande pardon. Nous décidons de changer de comportement et à devenir des enfants exemplaires dont vous serez fiers.
En plus des médailles, ces enfants ont bénéficié de trophées et des enveloppes de la part du procureur Bramakoné. Et cette journée s'achève au son d'un woyo savamment chanté par les pensionnaires, au son duquel les invités ont esquissé des pas de danse. Aïcha Diara Abouaké pour VOA Afrique.
Entre parenthèses.
Au Gabon, le programme 5000 logements par an, lancé en 2009 par le président Ali Bongo, ne semble pas satisfaire comme il se devrait. Il a pour objectif de répondre à la demande nationale de l'habitat, dont le déficit est estimé à 200 000. Mais des années après, les logements érigés ne répondent pas tous aux normes. À la cité Alhambra, au nord de Libreville, ces logements tombent en ruine. Des locataires disent que certains sont squattés et les autorités affirment que le problème des loyers non payés contribue à l'aggravation de la situation. Un reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangnze.
Si nous ne rentrons pas dans les maisons sociales, on n'est pas aujourd'hui de les gens en maison parce que là-bas, il y avait que les serpents.
Ghislain Joumas fait partie des premiers squatteurs d'Alhambra, nom donné à la cité des Gabonais aux revenus modestes. Mais problème sur ce site situé au nord de Libreville, l'occupation des logements sociaux s'est faite de façon anarchique. Madeleine Tsamba, locataire de la cité.
La plupart des maisons, c'est les squatteurs qui ont pris les maisons de bénéficiaires. Il y a d'autres qui attendent. Jusqu'à présent, on ne sait pas si ma boule personnelle. On avait fait des dossiers en bonne uniforme, mais c'était location-vente.
Bâti sur une superficie de 15 hectares, c'est en 2015 que les premières briques de ces parcelles ont été posées. La cité, partiellement achevée, manque de commodités. À Alhambra, c'est un déficit de sanitaire de qualité. L'eau et l'électricité y font aussi défaut. Et plusieurs logements, pourtant construits avec des matériaux dits durables, se dégradent au fil du temps. ZZ Meillon-Joël, président du collectif des résidents de la cité à Alhambra.
Nous sommes venus nous installer pour protéger ces maisons, pour éviter que tout ne soit détruit par les voleurs et les bandits. Et nous sommes installés dans ces conditions sur la base que les conditions devaient être améliorées par la suite. Mais depuis lors, rien n'a été fait malgré les déclarations faites à la presse, malgré les correspondances que nous avons à son niveau. L'Assemblée nationale, chez le président de la République, chaque fois qu'il y a un ministre qui arrive, ils nous font des promesses, il y a des effets d'annonce, nous allons améliorer vos conditions, payer d'abord les loyers, et puis ensuite, on va deux ou trois mois plus tard, rien n'est fait.
Chaque occupant de ces logements paye entre 55 000 et 600 000 francs CFA par mois et par revenu. En octobre dernier, le gouvernement, à travers le ministère de l'Habitat, a bouclé le recensement des bénéficiaires du programme Alhambra. Cette opération a, selon ZZ Meillon-Joël, nécessité de nouveaux frais de dossier.
Avant notre installation, on avait bel et bien payé les frais de dossier. Et
c'est élevé à
50 000 francs. Et nous sommes 1095 résidents. Et donc, ça fait à peu près 54 750 000 qu'on avait donné la première fois. Ce n'est pas allé dans les caisses de l'État. Aujourd'hui, à nouveau, le CT arrive, nous repartons sur de nouvelles bases, ils nous demandent les frais de dossier et même ils font des expulsions.
C'est le silence du côté des autorités en charge de la mise en application de ce programme de logements sociaux, cher au président gabonais Ali Bongo Ondimba. Libreville, Ismaël Obiangze, VOA Afrique.
Chères auditrices, chers auditeurs, le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel, juste après les nouvelles. Sur notre site internet, visitez aussi voaafrique.com/LMF pour consulter nos articles, vidéos, interviews et les autres éditions déjà parues. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.